Ce qui suit est une production de WebWest Balado. Entendons-nous bien.
Salut, ici Jean Fontaine. Raconte-moi l'Ouest et le Nord. Aujourd'hui, Léo Robert. Raconte-moi la crise linguistique de 1983 au Manitoba. Au Manitoba, la crise linguistique de 1983 a été un moment charnière, voire transformateur pour la communauté francophone du Manitoba. La société franco-manitobaine, la SFM, menée par son président Léo Robert, a été au cœur d'une bataille épique visant à récupérer les droits des francophones qui en avaient été privés depuis près de 100 ans. Cette bataille découlait de la victoire en Cour suprême de Georges Forêt en 1979, qui invalidait toutes les lois adoptées en anglais seulement par la législature du Manitoba depuis 1890. Mais l'opposition à ce que les francophones récupèrent leurs droits et améliorent leur sort était féroce. Il y a même eu des gestes criminels qui ont été posés à l'endroit de la SFM et de son président. La lutte a continué malgré tout et a atteint son paroxysme lors d'une audience publique tenue à Sainte-Anne au Manitoba en septembre 1983, audience qui a réuni au moins 2500 franco-manitobains et franco-manitobaines venus manifester en faveur de leurs droits. Pour nous parler de ce morceau important de l'histoire de la francophonie au Manitoba, aujourd'hui, à Raconte-moi l'Ouest et le Nord, j'accueille Léo Robert. Léo Robert, bonjour.
Bonjour, Jean.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, je veux commencer avec des félicitations.
Merci.
Parce qu'en décembre 2021, tu as été nommé au sein de l'Ordre du Canada.
Eh oui.
Et je vais citer le communiqué de presse qui dit ceci. Pour sa contribution à l'éducation francophone au Manitoba et pour sa détermination à préserver et à promouvoir le français dans toute la province. Wow!
Oui, ça a été une sacrée belle surprise, juste après Noël. Là.
Oui.
C'était un beau cadeau. C'était inattendu. C'est même un petit peu gênant.
Oui.
Parce que j'ai regardé la liste des récipiendaires déjà qui ont déjà été reçus dans l'Ordre du Canada, puis c'est quand même du monde.
Uh-huh.
quand même du monde intéressant,
hein?
Tu sais.
Oui.
Puis je me dis, ben je vais fitter quoi là-dedans, moi, là?
Tu sais? Oui.
Fait que tu te sens un petit peu, pas nécessairement à ta place, mais j'ai réalisé assez rapidement que c'est très, très bien, l'Ordre du Canada, pas juste pour moi, mais pour ma famille, puis pour toute la communauté, je trouve.
Mm-hmm. Parce que quand ça rejaillit sur toute la communauté.
C'est ça, oui. Exactement. Ça ne peut pas faire autrement que rejaillir sur toute la communauté. Puis il y en a d'autres francophones qui sont déjà dans l'Ordre du Canada, alors... Notre communauté, on dit toujours qu'on a une communauté forte et déterminée. Bien, on a une communauté forte et déterminée.
Et aujourd'hui, le morceau d'histoire dont on va parler, ça a été un morceau important. Puis quand je parle d'un moment charnière, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais on va en parler beaucoup. Mais avant ça, je veux quand même retourner au début de Léo Robert, natif originaire d'Aubigny au Manitoba. Géographiquement parlant, c'est au sud de Winnipeg, le long de la rivière Rouge,
oui.
Entre Sainte-Agathe et Saint-Jean-Baptiste à peu près, on pourrait dire ça. À peu près à 50 minutes, je pense, au sud de Winnipeg. Famille de 12 enfants, les Robert, il y avait du monde chez vous.
Bien, l'hiver, t'as long, hein?
Oui.
Et puis, on n'a pas de télévision.
Ouais.
On a eu une radio juste à la fin des années 40, je pense.
Ouais.
Et puis, fait que non, mais c'est ennuyant. Fait que les parents, il fallait qu'il y ait quelque chose à faire. Bon, avec un enfant en plus à chaque année, il y avait quelque chose à faire.
Effectivement, oui.
C'est ça. Moi, je suis le troisième des 12 enfants, le troisième aîné.
Oui.
J'ai deux frères qui sont plus vieux que moi. Mais mes parents ont bien fait ça. Ils ont eu 6 garçons et 6 filles.
Oh, wow!
Alors, on avait presque une équipe de baseball de garçons. Il fallait drafter 2 filles pour venir jouer avec nous autres. Et on avait au moins une bonne ligne et demie de hockey.
Ah, wow.
Alors, on s'amusait beaucoup sur la rivière aujourd'hui.
Et dans la rivière aussi.
Et dans la rivière. Oui. Ah oui, on passait l'été dans la rivière, soit à faire la pêche ou à se baigner. Et l'hiver, on était sur la glace. On nettoyait un rond à patiner là, sur la rivière avec des poteaux planté dans la glace pour que ça gèle bien.
Uh-huh.
Et puis, on passait nos journées là, nous autres. Même après la noirceur, si la lune était assez forte, si la lune était assez brillante, on allait jouer au hockey.
Aubigny, c'est francophone?
Aubigny, c'est un village complètement, je dirais presque complètement francophone. Je pense qu'il y avait 3 familles anglophones.
D'accord.
Il y avait la famille Blatter, la famille McDonald, puis Kenny. C'était les 3 seules familles anglophones. Tous ces enfants-là venaient à l'école avec nous autres, mais ils parlaient tout français. Comme ils apprenaient le français parce que c'est tout ce qu'on... Nous autres, on ne parlait pas l'anglais.
Vous avez assimilé les familles.
On a assimilé, c'est ça, l'assimilation inverse. J'ai trouvé ça le fun.
Oui, je comprends. Je comprends. Si le phénomène était encore comme ça, ce serait très bien, d'ailleurs.
Ça serait excellent, ouais, ça. Ouais.
Ça serait excellent.
Je vivrais bien.
Donc, c'est ça. Pour toi, le français, ça faisait partie... c'était même pas une cause dans ce temps-là. C'était juste dans la vie de Léo Robert, ça se passe en français.
C'est ça, exactement. Puis je pense que le village d'Aubigny n'est pas spécial dans ce sens-là. Je pense que nos villages, comme Sainte-Agathe, Sainte-Anne, on peut en nommer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Je pense que c'est la même situation, presque uniquement des francophones ou une petite minorité d'anglophones. Mais tout dans le village se passe en français.
Et au niveau de la carrière, tu as choisi d'aller en éducation. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir enseignant?
Je vais t'avouer, franchement, moi, ça fait depuis que j'ai commencé l'école, en première année, que je veux devenir enseignant. Puis j'ai jamais changé d'idée.
OK.
J'ai été affaibli un petit peu en dixième année. Je voulais aller travailler au garage Caron chez nous, là, devenir mécanique pour aider mes parents, parce qu'on n'était pas riche, aider à mes parents à faire vivre la famille. Mais mon père m'a rapidement désabusé de cette idée-là. Il a dit, tu peux aller à l'université, puis c'est tout. Fait que moi, ça a fait mon affaire, parce que j'ai pu devenir un enseignant comme j'ai toujours voulu faire.
Et tu as été dans ce milieu-là toute ta vie. Tu es devenu directeur d'école ensuite, directeur de la division scolaire franco-manitobaine aussi.
Oui, oui, exactement. Oui. J'imagine que c'est une piste pas mal dans l'éducation. Tu commences en enseignement, puis après ça, si l'administration t'intéresse, c'est directeur, puis ensuite.
Mais Léo Robert, le militant francophone, il est né quand?
Surtout à cause de mon épouse.
Oh.
Quand je me suis marié.
Oui.
C'est pas parce que j'ai été militant à cause de Diane. C'est pas ça, là. Diane, c'est une femme bien pacifique.
Oui, d'accord.
Mais Diane avait des convictions, elle aussi, puis elle les publiait beaucoup plus que moi. Puis je trouvais qu'elle était très, très engagée, peut-être plus que moi, parce que moi, je vivais en français. Fait que ça m'a jamais trop badré. Mm-hmm. Diane aussi à Saint-Malo, mais il y avait d'autres communautés tout proches de Saint-Malo. Alors, je pense que c'est un petit peu Diane. Puis quand on a commencé à avoir des enfants, bien là, il faut que tu décides. Hein? Là, tu as une grosse décision. Mm-hmm,
c'est vrai, oui.
Et puis, nous autres, la décision était facile. Et alors, puis après ça, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus aux faits français que juste aux français. Et puis c'est là que j'ai commencé à m'engager un petit peu.
Donc, l'engagement a commencé là. 1979, c'est la cause de Georges Forêt. Ça avait commencé en 1975. Il avait reçu une contravention en anglais seulement.
Oui, c'est sa fille qui avait stationné l'auto à la famille Forêt sur la rue Marion en avant de la business à Georges. Il était agent d'assurance.
D'accord.
Et puis, il y a une contravention pour stationnement uniquement en anglais.
Uniquement en anglais. Et il a décidé de contester ça. Alors, j'imagine qu'il est passé par tout le circuit des cours, en commençant avec la cour provinciale.
C'est ça. Ce qui a été un petit peu surprenant, puis je pense que ça a surpris Georges aussi, hein, c'est qu'il pensait d'aller en cour parce que la ville de Winnipeg, dans l'acte qui a créé l'amalgamation de la ville de Winnipeg, il y a un article dans sa loi qui dit que la ville doit offrir des services en français aux communautés de Saint-Boniface, Saint-Norbert et Saint-Vital.
Okay.
Alors, Saint-Boniface, il aurait dû avoir sa contravention en français au moins, ou bilingue au moins, mais il l'a eu uniquement en anglais. Alors, Forêt pensait qu'il poursuivait la ville. Puis, éventuellement, ça amenait à beaucoup plus que ça, parce qu'ils ont découvert que depuis 1890, le gouvernement provincial ne respectait même pas la Constitution du Manitoba.
Alors, à prime abord, il ne savait pas ça.
Non, il ne savait pas ça. Ouais. Il l'a appris, je pense, en cours de route au travers de ses codes cours, puis les premières étapes des cours. Là.
Ouais.
Et puis, à un moment donné, il y a un juge qui a dit, bien, ils n'avaient pas de cas parce que ça va être réglé au niveau de la ville. Puis Georges n'a pas trop aimé ça parce qu'il dit c'est plus que ça, ça va plus loin que ça. Puis il avait raison. Lui et son avocat avaient raison.
C'est une personne assez particulière, Georges Forêt, hein, parce que je sais qu'il n'y a pas eu juste des appuis, même dans la francophonie, même la société franco-manitobaine à l'époque n'appuyait pas sa cause plus qu'il faut.
Non, non, t'as raison. La majorité des francophones, je pense, n'appuyaient pas la cause à Georges trop.
On trouvait qu'il brassait trop la soupe, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Ouais. Et puis, les gens qui connaissaient le cas, la situation du Manitoba un peu, trouvait que c'était peut-être pas le bon cas à amener pour défendre l'Official Language Act de 1890. Mm-hmm. Il trouvait qu'on pourrait avoir un cas plus fort pour défendre cette clause-là. Mais Georges était déterminé d'y aller, puis quand Georges est déterminé, Georges fait ce qu'il a à faire, puis il faut le respecter pour ça, par exemple.
Lors de la création de la province du Manitoba en 1870, on s'était assuré que toutes les lois devaient être adoptées en français et en anglais. Et ça a fonctionné pendant environ une vingtaine d'années.
Exactement, exactement. Alors, on a fonctionné essentiellement comme province bilingue pour les 20 premières années d'existence du Manitoba.
Et après ça, Léo, à partir de 1890, le gouvernement manitobain a retiré cette obligation d'adopter en français et en anglais toutes les lois, et donc toutes les lois subséquentes ont été adoptées en anglais.
Jusqu'en 1985, oui.
Et c'est ça la cause que Georges Forest a gagnée en Cour suprême, cette obligation d'adopter les lois en français et en anglais. Donc, toutes les lois adoptées depuis 1890, Léo, devenaient invalides.
Et essentiellement, ça faisait ça. Mais la Cour suprême ne voulait pas créer le chaos dans la province, parce que vous imaginez-vous, vous autres, s'il n'y avait pas de loi du jour au lendemain, là,
oui.
Dire, ça pourrait dépeigner beaucoup de monde, ça, là. Fait qu'ils ont donné un délai de temps à la province pour qu'elle puisse traduire, mais ils n'ont jamais spécifié c'était quoi.
D'accord. Donc, il y avait comme une incertitude. À ce moment-là, le gouvernement au Manitoba, c'était Sterling Lyon, Parti progressiste conservateur. Puis lui, le français et les francophones, ça ne l'intéressait pas plus qu'il faut.
Non, ça ne l'intéressait pas du tout.
Pas du tout.
Non, non. Il était convaincu que la province, c'était une province unilingue anglophone et les francophones, s'ils ne sont pas contents, ils devraient peut-être aller retourner au Québec pour emprunter une des expressions préférées du temps.
Et là, il s'est passé quelque chose, c'est qu'en 1981, il y a eu un changement de gouvernement. Howard Pawley devient premier ministre, jeune premier ministre au Manitoba. Lui, il est sous la bannière néo-démocrate.
Oui.
Et là, le discours change complètement, Léo.
Oui. Après la décision de Georges Forest en 1979, il y a des discours qui ont changé. Puis, sauf Sterling Lyon et son gouvernement, ils n'ont pas agi aucunement sur la décision de la Cour suprême.
Donc déjà, l'opposition, quand même, était de votre bord.
Oui. Et quand M. Pawley a été élu, on a été chanceux aussi à l'élection de M. Pawley. On a eu essentiellement 5 députés qui parlaient français, dont 3 sont devenus ministres.
Mm-hmm.
Alors, dans le cabinet même, dans le caucus même de M. Pawley, dans son cabinet, il y avait même au moins 3 personnes qui étaient sensibles à la communauté francophone et à nos besoins. Alors ça, ça n'a pas nuit non plus, je pense, de l'intérieur du gouvernement, là.
Oui. 1982, mars 1982, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Société franco-manitobaine. Et c'est là que tu vas être élu, d'ailleurs, président. Ce sont des mandats de 2 ans. Et ce soir-là aussi, Howard Pawley, le premier ministre, a fait un discours devant l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il a dit et dans quelle langue est-ce qu'il s'est adressé à l'Assemblée?
À ma souvenance, il s'est adressé en anglais.
Oui.
Mais il a dit des belles choses. Essentiellement, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait agir sur la décision de la Cour suprême du cas Forest de 1979, mais il invitait la société franco-manitobaine à s'asseoir avec le gouvernement provincial et négocier un amendement constitutionnel qui changerait la Constitution manitobaine, qui était maintenant partie intégrale de la Constitution canadienne, et l'amendement porterait sur ce que la communauté négocierait avec le gouvernement. Mais le but du gouvernement, c'était uniquement d'éviter d'être obligé de traduire un paquet de lois désuètes, comme « t'attacheras pas ton cheval en avant de l'hôtel après 4 heures du soir ». On n'a plus trop besoin de ça, là.
Vous aviez identifié, d'ailleurs, à la SFM, un certain nombre de lois qui devaient, selon vous, être traduites.
Ça a fait partie des négociations, ça, essentiellement. En échange, pour ne pas être obligé de traduire les lois depuis 1890 et les adopter en français et en anglais, on a identifié, nous autres, à peu près 500 lois que la communauté avait absolument besoin d'avoir bilingue tout de suite. Puis après une certaine date, le gouvernement était obligé de commencer à adopter toutes ces lois en français et en anglais pour pas contribuer à ce qu'il y avait encore à traduire et à adopter. Tout de suite, commencer aujourd'hui à adopter en français et en anglais et s'occuper de la traduction par après.
Est-ce que c'est toi, Léo, en tant que président de la SFM, qui était chargé de négocier avec le gouvernement provincial? J'imagine qu'il y avait toute une équipe aussi derrière ça. Comment ça fonctionnait exactement?
Aussitôt que Pawley a fait son discours, nous autres, on s'est réunis et on a dit « Attends un peu, là. Comme moi, je ne suis pas constitutionnaliste, là. Je ne suis pas avocat, là.
Ouais. »
Et puis négocier un changement constitutionnel, c'est pas évident. Surtout quand tu passes ça dans la troisième langue, la langue officielle des avocats, là.
Oui.
c'est déjà assez difficile à comprendre.
Oui.
Là, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec le conseil d'administration, quand je dis « on », on a commencé à dire « Mais qu'est-ce que ça prend, là, pour être capable de négocier comme du monde, là, puis faire une bonne job? » Fait qu'on a établi des objectifs, nous autres. Le premier objectif, c'était que l'article 23 existant dans l'acte du Manitoba, négocié par Louis Riel, était intouchable. On ne changeait même pas une virgule là-dedans. On le gardait comme tel.
D'accord.
La raison, c'est que Dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, il y a un article 113 qui garantit les droits des anglophones au Québec. Le libellé de cet article-là, 113 pour les anglophones au Québec, est exactement le même que Riel a utilisé dans l'article 23 pour la protection des droits des francophones ici.
Wow! Ça, c'est un morceau d'histoire que je ne connaissais pas du tout, ça.
Alors, tu comprends pourquoi est-ce que pour nous autres, l'article 23 est extrêmement précieux?
Absolument.
C'est beaucoup plus facile de faire manger une claque à une petite minorité francophone que faire manger une claque à la minorité francophone et la minorité anglophone au Québec.
Mm-hmm.
C'est tout un autre game quand ça arrive à ça, là. Alors, c'est une des premières choses. On voulait aussi, au lieu d'enlever à l'article 23, on voulait ajouter. Ajouter l'obligation du gouvernement provincial d'offrir des services en français. Tous les ministères offrir des services en français. Mmh. En échange, le gouvernement acceptait de traduire 450 à 500 lois, traduire et adopter dans deux langues. Et ils acceptaient aussi, à partir d'une certaine date, mettons, on va choisir 1984,
oui.
À partir de cette date-là, toutes les nouvelles lois seront adoptées dans deux langues officielles et présentées. Fait que là, on a dit, bien, ça nous prend, pour les négociations, nous autres, là, c'est bien beau qu'il y ait la SFM, puis le président de la SFM qui est là, c'est un bien bon job, mais dans les constitutions puis les lois, il ne connaît pas grand-chose. Mais nous autres, on a regroupé une quinzaine d'avocats francophones, puis on les rencontrait régulièrement. On rencontrait aussi Roger Bilodeau, parce que lui, il avait eu une contravention uniquement en anglais,
mm-hmm.
puis il était prêt à aller en Cour suprême, pareil comme Georges Forêt.
Pour renforcer un petit peu le point qui avait été fait d'abord avec
oui,
la cause de Georges Forêt.
Puis je pense que le cas Bilodeau faisait peur à la province. Parce que quand un gouvernement provincial comparait devant la Cour suprême deux fois sur la même question après qu'ils ont perdu la première fois, la Cour suprême, ça peut-être pas trop gentil avec ce gouvernement-là.
D'ailleurs, tu dis, tu as déjà dit en quelque part qu'il y avait beaucoup de jeunes avocats au Manitoba français qui faisaient des excès de vitesse à Saint-Boniface.
Oui, à partir de. Bien, après le discours a parlé, ça nous encourage une gang. Et il y en avait 4-5 qui se promenaient. Je pourrais te les nommer, mais je pense que je vais garder la discrétion sur ce question-là. Mais sachez que Roger Bilodeau est à 1-2.
D'accord.
Et il a pogné une contravention de vitesse. On a commencé les négociations essentiellement. Et puis la première rencontre qu'on a eue avec M. Penner, qui était le
ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice, c'est ça.
Roland Penner.
Il nous a présenté un document d'ébauche sur lequel on pourrait négocier pour partir les négociations.
Mm-hmm.
Le premier item dans l'ébauche, c'était on va abolir l'article 23 de l'acte du Manitoba et le remplacer par ce qui suit. Puis nous autres, on n'a même pas lu le restant. On a dit, bien, Roland, si c'est de même que ça va être, nous autres, on va sortir tout de suite parce qu'on perd ton temps puis on perd notre temps. Mais il dit, pourquoi?
Parce que vous, l'article 23, c'était immuable. Il ne fallait pas toucher à ça.
Exactement. Oui. Exactement. On a dit, on sort puis on ne te reparlera plus. Fait qu'il dit, bien, qu'est-ce qui ne marche pas? Bien, il m'a dit, qu'est-ce qui ne marche pas? L'article 23, là, il n'est pas touchable, lui. On le garde exactement comme il est là. On ne change même pas une virgule. On va ajouter l'article 23. Puis si vous n'êtes pas ouvert à faire ça, on négocie pas. On perd notre temps, on va aller en Cour suprême.
Oui.
La prochaine réunion, il avait changé ça.
D'accord.
On ne voyait plus l'article numéro 1, là, qu'on est abolissé à l'article 23. Fait qu'il a compris comment important que c'était pour nous autres. Fait qu'essentiellement, on a commencé avec l'article 23 comme base, puis on a construit sur l'article 23.
OK. En décembre 1982, donc 8-9 mois après ton élection, après le premier discours de M. Parley, c'est là qu'on a eu une première entente qui restait à entériner. Mais c'est ça, on avait une entente constitutionnelle.
Oui, oui, c'est le 20 décembre, dans le bureau à Roland Penner encore, que la province et la communauté francophone s'étaient entendues sur un document d'amendement constitutionnel qui contenait essentiellement ce qu'on souhaitait.
Mais vous étiez content, là, vous vous disiez, on a la victoire presque au bout des doigts.
On était heureux, on était quasiment rendus, surtout considérant que les néo-démocrates étaient majoritaires à l'Assemblée législative. On se disait, même si l'opposition conservatrice continue son opposition, mm-hmm. ça va passer quand même parce qu'ils ont plus de votes au palais législatif. Alors, on a dit, bien, la game est quasiment gagnée, là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tout au long des négociations, Lyon puis les conservateurs se sont opposés, puis ils ont passé leur temps à mentir au monde. Ils ont fait peur aux anglophones. Des choses comme, si l'amendement constitutionnel passe, le Manitoba va devenir une province bilingue partout en tout. Les municipalités, tout va être bilingue. C'est pas vrai. Les municipalités, ils étaient exclus même spécifiquement dans l'article 23 qu'on avait renégocié. On excluait l'obligation des services en français aux municipalités. On les incluait pas là-dedans, en espérant qu'un jour les municipalités qui aient assez une population francophone adoptent le...
Oui.
En tout cas. Et puis, il disait, bien, on va avoir... Vos enfants, vous autres, des anglophones, n'auront plus jamais un emploi au gouvernement provincial, au gouvernement fédéral ou au niveau municipal. vous ne pourrez pas trouver des jobs.
On leur faisait peur. On faisait peur à
exactement.
La population.
Puis du monde, quand tu parles, quand tu commences à parler de tes enfants qui ne pourront pas avoir un job, c'est pas peur. Tout au long des négociations, nous autres, comme la SFM, puis au nom de la communauté francophone, on rencontrait aussi des représentants du gouvernement fédéral. Parce qu'il faut comprendre qu'un amendement constitutionnel, ça n'appartient pas à une province. Mm-hmm. C'est pour ça que la province, en 1890, fait taper ses doigts.
Oui.
L'amendement constitutionnel ne leur appartenait pas. Ça appartenait au Canada. Au Canada.
D'accord.
Alors, on rencontrait Pierre Trudeau, Jean Chrétien, qui était ministre de la Justice, Ed Broadbent, qui était chef du Parti néo-démocrate, Mulroney, qui était nouvellement élu chef du Parti conservateur, pour leur expliquer l'amendement, ce qu'on souhaitait faire, puis qu'est-ce qu'on souhaitait qui arriverait avec l'amendement constitutionnel, puis leur demandant leur appui lorsque l'amendement arrivera sera sorti de la province et arrivera au niveau fédéral. Puis honnêtement, on a eu de l'appui unanime du Parlement fédéral. Il y a même eu deux propositions dans le Parlement fédéral appuyant l'amendement constitutionnel et encourageant le gouvernement provincial à adopter l'amendement constitutionnel et l'envoyer au niveau fédéral. Deux amendements adoptés unanimement dans l'Assemblée législative. Comme c'est fort.
C'est fort, c'est très fort.
Il y a même Eric Meldoff, qui était président de l'Association des Anglo-Québécois à Québec. Il est venu deux fois dans la province pour s'adresser au gouvernement et à l'opposition pour les encourager d'adopter l'amendement. C'est fort.
Ça, c'est extrêmement intéressant aussi parce que les Anglo-Québécois ont dit qu'ils sont privilégiés comparés à la minorité francophone. Mais évidemment, ils avaient tout avantage à vous appuyer. Ils l'ont fait.
C'est ça.
Ils l'ont fait.
Puis Meldoff l'a dit exactement ça. Ouais. Si les francophones du Manitoba étaient traités comme nous autres, vous ne serez pas ici aujourd'hui.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est en suivi de tout ça?
Bien, je pense qu'une des premières choses qui s'est passée, c'est que M. Pierre Trudeau, le premier ministre du Canada, est venu faire une petite tournée au Manitoba. Et... À l'hôtel Fort Garry, le soir du 13 mai, je pense, il a prononcé un discours. Il y a une partie en français du discours où il a annoncé l'entente constitutionnelle négociée entre la communauté francophone et le gouvernement provincial et annoncé publiquement qu'avec ça, la province de Manitoba deviendra officiellement bilingue. Les anglophones n'ont pas ramassé ça, eux autres. Ils n'ont pas compris que ce qu'ils disaient, mais les francophones l'ont ramassé.
Oui.
Puis on a des journalistes francophones
oui.
qui ont fait des reportages là-dessus.
Mm-hmm.
Puis par le temps que la liberté a été traduite, là, les anglophones ont commencé à embarquer. Là,
ils ont dit wow, attention, on va avoir une province bilingue.
C'est ça, c'est pas ça qu'on a négocié, c'est pas ça qu'on pensait qu'ils se négociaient. Parce que durant tout ce temps-là, le gouvernement, Paulé, n'a pas fait beaucoup d'efforts pour informer les anglophones. Même pas l'opposition en chambre, imagine-toi. Alors, c'est venu comme une surprise. Tandis que dans la communauté francophone, c'était pas une surprise, l'entente constitutionnelle. Là. Parce qu'on a eu une soirée pour ratifier l'entente
D'accord.
de la communauté francophone à l'Université de Saint-Boniface.
Oui.
Et on a eu 576 votes en faveur de l'amendement constitutionnel des francophones, ça. 11 votes contre. C'est moins que 2% ça qui vote contre. Puis, des Russ Dorn... Des Sterling Lyon nous disaient, vous représentez qui, vous autres? C'est juste une gang de petits radicaux qui veulent gérer tout le monde puis écœurer du grand monde. C'est tout ce que vous êtes. Vous n'êtes même pas appuyé par votre propre communauté. Combien de membres qu'il y a dans la SFM?
Oui.
Moi, je disais, toi, là, Sterling, quand tu es élu premier ministre, là, as-tu eu 100% des votes? Y avait-tu des gens qui ont voté contre toi parce qu'ils ne voulaient pas voter pour toi? Mais tu as formé le gouvernement quand même.
Oui.
C'est parce que nous autres, la communauté francophone, ça nous prend 100% pour être crédible, minute-là.
Oui, c'est effectivement un petit peu tiré par les cheveux. Mais l'opposition n'a pas lâché le morceau.
Non.
Ils ont exigé, Sterling Lyon, je pense, entre autres, a exigé des audiences publiques.
Oui.
Je pense que M. Parlé a été obligé de dire oui à ces audiences publiques-là.
Essentiellement, ça a commencé par des sessions d'information dans quatre villes.
Oui.
Puis après ça, étant donné que les conservateurs, lui indiquaient à Parlé qu'il ne viendra pas voter pour l'amendement tel qu'il était, mais il fallait avoir des audiences publiques entre l'adoption de la deuxième lecture et la troisième lecture.
Mm-hmm, d'accord.
Alors, au mois de juillet, Parlé a décidé qu'on était pour faire des audiences publiques. Et les audiences publiques, il a choisi, je pense, c'est 11 villes.
Oui.
Donc, Sainte-Anne-des-Chênes, qui était la seule francophone.
Il y avait Saint-Rose-du-Lac aussi qui était francophone. Des villes ou des villages anglophones.
C'est ça. Le restant, c'était tous des villages anglophones. Nous autres, dans notre petit coin de pays, nous autres, à la SFM, on s'est dit... On a eu des sessions d'information. Il s'en va aux audiences publiques pour enlever la pression de l'opposition. On a perdu, là. comme on ne gagnera pas, là.
J'ai vu, moi, des annonces de pleine page de la liberté. C'est Léo Robert, avec sa grosse barbe noire à l'époque, oui. La chevelure et tout ça, qui dit « Venez à Sainte-Anne », qui invite les gens personnellement à venir. Et les gens ont répondu, mon cher Léo.
Et que oui. Et que oui. Si jamais qu'on avait eu des doutes, moi, j'en ai jamais eu, mais si jamais qu'on avait eu des doutes que la communauté n'appuyait pas l'amendement constitutionnel que la SFM avait négocié,
oui.
Il y avait juste à se pointer à Sainte-Anne-des-Chênes au mois de septembre, le 23 septembre, je pense.
27 septembre 1983.
Il y avait juste à se pointer là. Au-delà de 2500. Il y a même des journalistes qui ont dit qu'il y en avait à 3000, mais moi, j'utilise le terme 2500 parce que je ne veux pas exagérer puis je ne veux pas me faire traiter de menteur. Il y en avait au moins 2500. Imagine-toi, toi. La cour de la Legion, puis du curling club, puis du hockey club,
oui.
C'était des drapeaux francophones, c'était des bannières contre Lyon, puis Dorn, puis...
Wow.
C'était vraiment... On avait une estrade avec un orchestre.
Mm-hmm.
On fêtait, nous autres.
Oui.
Puis c'était une grande fête, c'était l'occasion d'une grande fête, parce que c'était la fête de la communauté. Puis c'est là, c'était prévu qu'exactement à 8 heures, au nom de la communauté, je faisais ma présentation au comité qui écoutait les audiences publiques au comité gouvernemental. Et puis, l'après-midi, il y avait Russ Dorn et Sterling Lyon qui étaient là. Le soir, il n'y avait pas un conservateur qui était là. Il y avait juste des néos. Moi, je présentais à 8 heures. Je ne sais pas s'il y avait une coïncidence là-dedans, là, mais... Puis, je n'ai même pas eu de question, rien. J'ai fait ma présentation, puis on est sorti dehors, chanter puis fêter avec le restant des francophones.
C'était quoi le feeling? 2500 personnes qui se déplacent? Je veux dire, ça ne s'est jamais vu là, dans l'histoire de la communauté franco-manitobaine.
C'est très difficile à croire. Comme je pensais que j'avais la poitrine grosse, moi, mais à grossir en sang la wagon soir, là, oui. Et puis, je te le dis que j'étais fier en bordel. J'étais vraiment fier de ma communauté.
Oui, je comprends. Puis, est-ce que j'ai dit ça dans l'introduction tantôt, mais est-ce que ça a été un moment charnière ce soir-là pour la confiance, peut-être, de la communauté franco-manitobaine?
Moi, je crois que oui. Oui, je pense ça. Je rencontre aujourd'hui, moi, des jeunes, je dis des jeunes, mais une trentaine d'années, là, qui me parlent de Sainte-Anne. Il était pas haut, il était pas là, puis eux, oui. Autres, là. Puis,
mm-hmm.
Il y en a même une jeune madame qui est venue me voir, puis elle dit, sais-tu, elle dit, quand on est allé à la manifestation à Sainte-Anne, là, c'est là où j'ai rencontré mon chum. Elle dit, Colin, ça y a eu deux bons buts, deux bons objectifs. après tout, ça a passé en première lecture, comme tout, oui. Projet de loi. En deuxième lecture, ça n'a jamais passé parce que les conservateurs refusaient de rentrer en chambre pour voter.
Ils ont fait sonner les cloches, comme on dit.
C'est ça. Ils ont fait sonner les cloches pendant au moins deux semaines de temps.
Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un député de l'opposition sur les bancs pour pouvoir adopter ou rejeter un projet de loi, puis ils sont juste pas rentrés en chambre.
Ils sont juste pas rentrés en chambre. Ils votaient pas. Alors, le gouvernement, il avait les mains attachées, là. Il ne pouvait plus faire grand-chose. Là. Puis finalement, au mois de février 1984, ils ont retiré il est mort au feuilleton. La session a abrogé. Puis...
Et là, Léo, on vient de parler vraiment de la mécanique des négociations qui, malheureusement, n'auront pas abouti en fin de compte. Il y a eu des beaux moments à travers tout ça, mais il y a eu des moments extrêmement difficiles au niveau personnel pour toi, pour ta famille et même pour Georges Forêt aussi.
Oui, essentiellement, je pense qu'après la décision le 13 décembre 1979 dans la décision Forêt, Georges avait déjà ses murs extérieurs de ses bureaux peinturés presque à tous les fins de semaine. « No more French » ou « Go back to Quebec » ou des beaux petits messages de même. Et puis, il commençait à recevoir des menaces de mort aussi après la décision de la Cour suprême. Georges a reçu pas mal de menaces de mort. Alors, ça a déjà commencé à mal aller. Puis là, on a commencé à peinturer « No more French » sur notre centre culturel, sur la rue Provencher, et sur les murs de l'édifice, les bureaux de la SFM aussi sur la rue Provencher.
Puis là, on arrive en décembre 82, mais là, parce que tu as parlé des graffitis. Les graffitis, c'est une chose, ça se nettoie.
Oui.
Y en a même qui enlevaient les « no » de « no more French ». Ça, j'ai entendu parler de ça aussi.
Francophone.
Mais là, à un moment donné, ça commençait à jouer plus dur, on pourrait dire ça. Je ne sais pas c'est dans quel ordre que tout ça est arrivé. Il y a eu notamment l'incendie des locaux de la SFM qui était situé boulevard Provencher, pas là où ils sont en ce moment, mais à un autre endroit. Ça, c'était, si je ne me trompe pas, en janvier 1983.
Oui, le 30 janvier 1983, oui. Entre-temps, au mois de décembre, on a eu des graffitis sur, au centre culturel, comme je disais. La porte de ma maison, on a eu NMF dessus, le No More French. C'était drôle parce que c'était un duplex à Knightsbridge. Puis l'autre propriétaire de duplex avec moi, c'était un anglophone unilingue, mais ils ont peinturé la porte de mon voisin au lieu de peinturer la mienne. Le lendemain matin, il y avait toute une surprise.
Fait, moi.
Ouais, il m'a demandé, sais-tu que c'est ça, Léo? Je n'ai aucune idée, je ne sais pas en tout. Tu sais qui a fait ça? Puis on a commencé aussi, ça a commencé à brasser pas mal. On a commencé à recevoir des appels, nous, mon épouse et moi, à maison, à tous les heures de la nuit. C'était pas important quelle heure, le téléphone sonnait. On savait que Léo était pour se faire remplir de bêtises, puis pas avec des mots trop, trop gentils, puis un vocabulaire choisi pour vraiment faire sacrer un gars. On avait défendu les filles de répondre au téléphone. Puis il y en
avait
a...
trois filles?
Trois filles.
Oui.
La plus vieille avait 9 ans, l'autre avait 7 ans, puis la plus jeune avait 2 ans.
Oui.
Alors, il n'y avait plus le droit de répondre au téléphone. On a commencé à recevoir des menaces de mort par téléphone et aussi dans notre boîte aux lettres. On recevait toutes sortes de belles petites lettres. Une photo de Léo avec une cartouche de 22. Ce qui a brassé la cage pas mal, c'est qu'à un moment donné, on a reçu une lettre dans notre boîte aux lettres qui indiquait « Surveillez-vous parce qu'on sait où vous demeurez. Puis on a suivi vos enfants de l'école à chez vous un jour. Alors sachez que vous êtes très vulnérables. » Pas dans ces mots-là, mais oui. Essentiellement, c'est ce que ça disait.
Les enfants qui allaient à l'école tachée, je pense.
À l'école tachée, oui. Puis on avait déménagé, là, on était sur la rue Saint-Jean-Baptiste à ce moment-là. C'est ça vraiment qui a fait déborder le vase. Avec moi et Diane, on ne savait plus trop où se lancer. Tu sais que Paulie et Andy Anstead, qui était le négociateur principal pour la province avec Roland Peller, eux autres, il y avait les polices qu'ils accompagnaient partout. Hein.
Ah oui?
Nous autres, okay. On avait demandé aussi pour la protection. Après tout ça est arrivé, puis on leur a montré la preuve des preuves qu'on a eues de menaces assez sérieuses, je pense, puis crédibles. Les autres ont dit, bien, OK, on va passer chez vous une fois de temps en temps durant la journée. Mais je dis, merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. Fait qu'on a pris la décision, Diane et moi, de quitter notre maison. On a emmené nos trois enfants chez la sœur à Diane à Saint-Malo,
oui.
En campagne. On les a sortis de l'école. Et moi et Diane, on a laissé notre voiture dans le garage. Puis on a loué une voiture. Puis on changeait de voiture à chaque semaine. Et puis on a vécu surtout dans des chambres d'hôtel ou chez des amis.
Mm-hmm.
On ne savait pas trop le soir où ce qu'on allait, mais on changeait de place.
Parce que toi, tu avais peur pour toi, mais tu avais surtout peur pour ta famille.
Oui.
Oui. Tes enfants, ta femme, ça devait, ouais. Ça devait être effroyable comme sentiment, parce que tu dis, c'est un peu moi qui est responsable de ça, puis je veux pas qu'il leur arrive à rien.
Non, c'est ça. Exactement. Moi, j'avais encouragé Diane aussi de rester avec les enfants à Saint-Malo, mais elle ne voulait pas l'entendre parler. Elle dit non, on va le faire ensemble ou on ne le fait pas.
Oui. Parce que tu aurais bien pu, à ce moment-là, dire OK, c'est trop. C'est too much, là. Comme j'ai pas besoin de vivre ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit non, je vais continuer la lutte?
Tu sais, je comprends comment importante la question était pour la communauté.
Oui.
Et puis, je sentais aussi que la communauté nous appuyait beaucoup. On n'était pas 100% d'appui.
Tu sentais ça?
Je sentais vraiment. Parce que moi, je me promenais dans les villages.
Oui.
Durant toute cette crise-là. Là. Puis j'allais... Chaque village, il y a son hôtel. Puis le matin, les petits vieux se rencontrent là pour le café. Moi, je faisais exprès. J'allais m'asseoir avec les petits vieux pour jaser pendant le café le matin quand j'allais dans ces villages-là. Puis ils disaient, Léo, on mange une maudite claque, nous autres sites, mais lâche pas. Fort, hein? Et on n'abandonne pas une communauté, c'est une question importante de même à mi-chemin dans la run, là. T'es embarqué pour la run, bien, falla. Puis on a tenu.
Parce que il y avait des gens évidemment anonymes là, qui vous en voulaient, mais il y avait des gens très publics aussi qui, par exemple, Peter Warren, qui était un animateur de radio extrêmement connu,
oui.
Peut-être un des plus connus à Winnipeg, qui a été là pendant 30-40 ans, je ne sais pas, à CJOB,
mm-hmm.
Qui était anti-francophone et qui le manifestait et qui faisait même des tribunes téléphoniques là, pour inciter les gens à parler contre les francophones.
Oui, et puis si on écoutait les émissions de M. Warren le matin, là, c'était pas beau ce qu'il se disait, puis ce qu'on permettait d'être dit
oui.
Sur les ondes d'un poste de radio. C'était effrayant, les commentaires qui se faisaient là-dessus. Puis c'était encouragé par Peter Warren. C'était pas découragé par notre premier ministre, Irving Lyon, avant qu'il parte son élection. Quand on est allé pour les audiences publiques à Brandon, la police, un char de police nous attendait aux frontières de la ville. Il nous a accompagnés jusqu'à, je pense, au Legion, à Brandon, une des Legion, en tout cas, qu'on faisait notre présentation. Et ils nous ont escortés encore en sortant du village. Quand j'allais à Brandon, j'étais assis peut-être dans un restaurant avec un autre francophone, et puis on se parlait en français, puis il y a des gens qui nous criaient « Speak white », puis « Go back to Québec », puis plus de cochonneries que ça, là. Mais après l'amendement, après que tout a calmé un peu, puis on a retiré l'amendement constitutionnel, n'a pas passé, là, aujourd'hui, tu peux aller à Brandon, puis je peux parler français n'importe où, puis il n'y a personne qui ne dit rien.
Je sais pas si c'est un peu une coïncidence que tu aies été là entre 1982 et 1984. Puis c'est Roger Legal qui écrivait ça dans un cahier spécial de la liberté en 1993 pour les 25 ans de la SFM. Il dit « Léo Robert, ça a été probablement un des présidents les plus importants, mais aussi un de ceux qui a conquis le cœur des Franco-Manitobains et des Franco-Manitobaines. »
Ah, il est bien gentil, notre petit Roger.
As-tu l'impression quand même que c'est un peu vrai?
Je sais pas si c'est moi qui ai conquis ou c'est la cause,
oui,
ou c'est l'engagement des membres de la communauté, leur engagement individuel envers la communauté. Il y a de ces éléments-là aussi qui jouent là-dedans. Mais je ne regrette rien en passant. Hein. Non, je ne regrette rien.
C'est drôle parce que si on regarde le score final de tout ça, c'est que finalement, c'est mort au feuilleton. Il n'y en a pas eu d'amendement constitutionnel. Il n'y en a jamais eu. Mais l'article 23 est quand même là.
Oui.
Il existe.
Oui.
La cause Forêt et ensuite la cause de Roger Bilodeau, c'est quand même ça qui a fait en sorte que maintenant, toutes les lois sont adoptées en français et en anglais. On peut s'exprimer en français et en anglais dans nos cours. On peut à la législature également. Mais j'ai l'impression que le leg de tout ça, de toute cette bataille-là, c'est la fierté.
Oui, oui. À l'intérieur de la communauté, certainement. Je pense aussi que il y a l'autre élément aussi pour les gens qui ne sont pas membres de la communauté, comme les anglophones. Je pense qu'eux autres aussi, il y a un leg pour eux autres. Hein. Comme je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses que... Quand un public assiste à des audiences publiques, puis il y a une personne qui se lève debout puis dit « Je suis raciste et j'en suis fier », en pleine réunion, il y a là une dizaine qui fait la même chose. Quelle sorte de communauté est-ce qu'on est en train de développer? Qu'est-ce que c'est qu'on est en train de faire avec notre communauté au Manitoba? Pas notre communauté francophone, c'est les anglophones qui disaient ça. Parce qu'ils étaient anti-francophones essentiellement. Puis je pense que les gens commencent à réfléchir. Il y a eu un moment de réflexion là aussi que ça a été calme. Ça a été en Cour suprême, tout le monde a pris son coin puis n'en parlait pas trop. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions au niveau de la communauté anglophone. Puis je pense que la communauté francophone est mieux placée pour ça aujourd'hui, oui, je crois.
Et puis la communauté anglophone maintenant, tu regardes juste le phénomène des écoles d'immersion, il y a 25 à 30 000 jeunes en immersion au Manitoba. Il y en a 5 fois plus en immersion qu'il y en a dans notre système francophone. Il y a quand même quelque chose qui est bien différent de ce que c'était là, il y a 30-40 ans.
Oui, c'est ça, exactement. C'est une des preuves, ça aussi, que le français est beaucoup mieux accepté. Plus accepté et mieux accepté qu'il l'était dans les années 80. Une des premières choses que Philman a faites, c'est d'adopter une politique sur les services en français. Puis la politique sur les services en français, c'est suite à une étude qui a été faite par le juge en chef, maintenant Richard Chartier, qui a désigné des régions où c'est qu'il y avait suffisamment de francophones pour justifier des services en français. Ça, c'était un bon départ. Là, récemment, on a eu le gouvernement provincial qui a adopté une loi sur l'épanouissement de la communauté francophone. On n'aurait jamais pu penser qu'un gouvernement aurait adopté une loi pour les francophones dans les années 80. Jamais. Puis là, on a notre loi. Elle n'est peut-être pas aussi forte qu'elle devrait être. Peut-être pas autant de poignes qu'elle pourrait avoir. Mais au moins, c'est un début. On a quelque chose sur lequel construire. C'est comme ces deux preuves, ça. Tu sais, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Puis je pense que les gens sont beaucoup plus sensibles qu'ils l'étaient dans le français et la francophonie. Connaissant un petit peu notre histoire, et leur histoire, parce que notre histoire, elle ne se vit pas toute seule, elle se vit en société avec d'autres. Alors, je pense que c'est deux conséquences assez directes, je pense, de la crise linguistique. Mais tu découvres beaucoup de choses de ta communauté quand tu passes au travers d'une crise comme celle-là. Ça aurait été bien mieux de ne pas être obligé de la faire et avoir l'amendement constitutionnel sans tout ça, là. Mais je pense qu'on a appris quelque chose aussi.
Léo Robert, on peut juste te dire merci pour avoir fait avancer la cause des francophones au Manitoba, puis la cause, sans doute, des francophones partout au Canada, dans l'Ouest, dans le Nord. Merci infiniment, Léo Robert.
Merci beaucoup, c'est mon plaisir. Bonne journée.
Raconte-moi la crise linguistique de 1983 au Manitoba, une production de WebWest Balado animée par Jean Fontaine et réalisée par Yann Dallaire. Notre invité, Léo Robert.